Pierre Bourjade est un dramaturge admirable. Son théâtre, d'une concision classique, porte au plus haut point l'art de l'artifice et des mécanismes rhétoriques. Le texte y devient une machine, infernale, et la machine devient textuelle. Dans Le Passeport, par exemple, des coups de théâtre en série deviendraient jubilatoires si, en creux, le sujet terrible de la dictature et de l'oppression de l'homme par l'homme ou de la femme par l'homme ne travaillait ce texte intense. Objet machinique et corps machine, le corps anime de l'intérieur même la poétique de Bourjade qui s'est forgée sur fond d'histoire du XXe siècle et de Shoah. Et c'est à l'aune de cette expérience fondatrice que cet écrivain extraordinairement ouvert aux expérimentateurs de son temps a côtoyé avec une intuition hors limite et visionnaire aussi bien Pierre Molinier que Michel Journiac et Gina Panet. Bref, les grands artistes de l'art corporel qui, à l'instar de l'objet théâtre, n'ont cessé de distiller dans l'écriture de Bourjade la question de la représentation, celle de l'artifice et de l'image encore, de la plasticité, son expérience esthétique.
On a parlé du surréalisme, et puis dans vos centres d'intérêt esthétique, on va jusqu'à l'art corporel. Alors, Molinier, Michel Journiac, Gina Pan, ça donne aussi, je dirais, un éclairage à votre œuvre, qui pour les auteurs de votre génération est assez atypique, parce que du coup ça crée une ouverture esthétique très liée à l'art contemporain. Cette trinité, pourrait-on dire, d'artistes qui sont très proches de vous, Molinier, Journiac, Gina Pan, est-ce que vous pourriez nous parler encore une fois de ces rencontres et finalement des expériences qui ont été faites?
C'est des choses. À la fois, ça a à chaque fois été des rencontres, comme toujours dans ma vie, des rencontres personnelles, si vous voulez. En même temps, ce qui est arrivé avec eux, avec Molinier par exemple, c'est une réflexion sur l'histoire, puisque moi je me suis beaucoup inspiré de l'histoire. Je suis un enfant de la guerre, j'ai vécu la guerre, etc. Et une des choses qui m'a le plus frappé au moment de la guerre, évidemment, ça a été la révélation de ce qui se passait dans les camps de concentration, ce qui a été découvert qu'en 1944 ou 45. Dans Libération d'aujourd'hui, il y a un article terrible sur ça, je ne sais pas si vous l'avez lu, sur le syndrome des gens qui ont été déportés, quoi, parce qu'on a vu là des choses qu'on n'avait jamais vues. Moi, c'est en 1942 que j'en ai entendu parler pour la première fois. J'étais au Pays Basque, en zone occupée, dans une petite ville où mon père était percepteur. Et mon père, comme tous les Basques, il était dans des réseaux de résistance sans avoir jamais eu aucune carte. Il faisait passer soit les gens de la zone occupée vers la zone libre, soit des gens de la zone occupée vers l'Espagne. Et j'avais ma grand-mère basquaise qui habitait à Molliens, en zone libre, alors à 30 km de là où je vivais avec mes parents. J'avais 14 ans, quoi. Avec ma mère, je passais la ligne de démarcation. On prenait nos vélos et on allait à Molliens voir ma grand-mère. Et un jour, en 1942, au printemps 42, on s'est arrêté dans un petit village qui s'appelle Domezin, qui est à mi-chemin entre Saint-Palais, où j'habitais, et Molléon, qui est la capitale de la Soule. C'est deux provinces basques, hein, Saint-Palais, la Basse-Navarre, et Molléon, la Soule. Et là, on a pris le café avec un basque évadé qui rentrait d'Allemagne et qui était déjà en zone libre, chez ses parents. Et ce basque a raconté que en Allemagne, il y avait des camps où les gens devenaient des animaux. Voilà, il a relaté ça, ce basque-là. Et alors moi, j'ai passé après 6 mois sans pouvoir dormir, parce que les Allemands, dans la ville où j'habitais, en zone occupée, rassemblaient la nuit les hommes pour s'assurer qu'il manquait personne, etc. Mon père était un passeur. J'avais très très peur, et je me demandais comment on pouvait transformer des gens en animaux. Et cette réponse, on l'a eue en 1944-45, quand on a eu la révélation subite et absolument terrible de la déportation. Et le premier livre que j'ai lu sur ça, en 1945, je pense, c'est quand Jean-Paul Sartre a formé avec David Rousset le RDR, Rassemblement démocratique révolutionnaire. Moi, j'ai fait une cellule de ça, j'étais à Bordeaux. Alors, en 1945, j'étais étudiant, je commençais à être étudiant. Et Rousset raconte, et je ne sais pas si vous avez son livre qui s'appelle L'hiver concentrationnaire, il raconte que des gens sont amenés en rang dans un camp, un type tous, on le fait coucher par terre, on lui met une bêche sur le cou et on le décapite. Et il se fait comme un fait de chose qui n'était jamais arrivée avant, qui n'est jamais pu arriver après, quoi. On a donc eu là des événements absolument atroces qui ont bouleversé la conscience que les hommes ont pu avoir de ces événements. Et on était pour la première fois dans l'histoire, je pense, dans une tentative de déshumanisation. C'est ça qu'on a senti. Et étant enfant, j'ai ressenti ça quand j'ai entendu parler de gens qui devenaient des animaux. J'arrivais pas à comprendre comment c'était. Puis après, on a su que les Allemands, avec des morceaux de peau, ils faisaient des abat-jour, avec la graisse, des engrais. On avait des tonnes de dents, de lunettes, de cheveux, etc. C'est une abomination qui n'avait pas eu d'exemple. Et pour en passer à l'art, si vous voulez, il me semble devant les révélations qu'ont apportées les camps de déportation, on peut dire que l'imagination a reflué. Et donc les grandes tentatives littéraires qui étaient faites avant la guerre, Sartre par exemple, ou Malraux, etc., se sont arrêtées parce que les gens n'ont plus rien trouvé à dire devant cette abomination des camps. Et par conséquent, il a fallu attendre plusieurs années avant que ça recommence. Les chemins de la liberté sont arrêtés en 1941-1942, Malraux a arrêté, etc. Quoi. Comme si ce qui s'était passé ruinait la faculté imaginative en portant un coup mortel à la conscience. Ça a été vrai pour la littérature, puisqu'après, bon, Sartre a continué, mais il n'a pas écrit des romans, il a écrit sur la philosophie, il a fait du journalisme, Malraux a écrit sur l'art, il a cessé aussi ses récits romanesques. Donc ça a été vrai pour la littérature, et ça a été vrai aussi pour l'art plastique, parce qu'on n'a pas pu reproduire, devant ce qui s'était passé, il me semble qu'on n'a pas pu reproduire le corps humain après l'avoir vu transformé en engrais, etc. Il y a une sorte d'arrêt de la représentation. Et des gens qu'on a connus par la suite, complètement différents, comme était Moligny, qui avait sûr ignoré tout ça, avec comme ça, en fait, d'une certaine façon, ils le vivaient, puisqu'ils ont fait de leur propre corps l'objet de la représentation. Et en plus, ce corps, ils l'ont martyrisé, ils l'ont saccagé, ils ont fait 35 choses de ce corps, ils ont travaillé sur leur propre corps comme si... comme on ne pouvait plus le représenter, une femme avec un grand chapeau dans des fleurs comme les impressionnistes, on s'est trouvé devant une sorte de nudité de l'âme, et que c'est le corps qui est devenu l'objet, le moyen de la représentation. Et ça, je l'ai vécu après avec Moligny, de façon complètement différente, mais en Moligny, j'ai vu un peu le successeur de cet après la Shoah, si vous voulez. Et de même, pour les gens comme Moligny, Michel Journal, que j'ai très bien connu, et Gina Pan, que j'ai très bien connu, c'est aussi des gens qui ont travaillé sur leur corps comme si il fallait qu'on invente quelque chose d'autre pour représenter le corps. Et alors, j'ai rencontré Moligny, qui n'a peut-être jamais pensé à ce que je vous dis là, mais qui pour moi est très vrai, à la fois sur le plan littéraire et sur le plan plastique. Et Moligny, après, est un ami terriblement fidèle, il m'a envoyé des tonnes de photos, j'en ai vu une boîte à chaussures de lettres que j'ai vendues au fur et à mesure, de photos que j'ai vendues, etc., pour survivre. Et je l'ai vu jusqu'à la fin, à Moligny. Des gens l'ont très bien connu, moi je l'ai connu, je ne sais pas, 5 ou 6 ans avant sa mort, je crois qu'il est mort en 76, ou 10 ans, quoi. Je l'ai vu 2 ou 3 fois par an régulièrement, on s'est écrit, il m'a envoyé des lettres, je lui ai envoyé des livres, etc. C'est devenu un très très grand ami, mais évidemment... dans la manière alors dont il niait tout ce qui était autour de son corps et la société dans laquelle il vivait. Il ne savait pas s'il était homme ou femme, il s'habillait en femme dessus, en homme par-dessous, il s'enculait avec des trucs qu'il avait, des godemichés qu'il avait, ses souliers, c'était l'homme-femme, ils étaient tous les deux. Et j'ai vu vraiment quelqu'un qui avait annulé tout ce qui était avant et qui vivait à sa manière à lui. Quoi. Voilà, c'était terrible. Comme après, j'ai rencontré à Paris Michel Journial, qui se déguisait en Madame Journial, en Monsieur Journial, en ses parents, en ses machins, en 36 façons, qui vivait complètement à l'écart de tout. Qui donnait son sang, Michel Journial, vous savez, il a donné son... chez Stadler, il a retiré son sang pour faire du boudin que chacun mangeait, etc. C'est Catherine Millet, la femme d'Arpresse, qui était l'enfant de cœur. Et après, Gina Pan, qui faisait des choses terribles sur son corps. C'est des gens qui ont travailler leur corps pour arriver à quelque chose, quoi, on ne sait pas, mais en annulant tout ce qui se faisait avant. Et c'est en ça, pour moi, c'est des artistes capitaux, parce que c'est à partir d'eux qu'on peut dire que c'est développé, même par des gens qui ne les connaissent pas, la relation au corps. Eux, ils ont tourmenté leur corps, charcuté leur corps, transformé leur corps, d'autres maintenant font des choses qui ne vont pas jusque-là, mais qu'ils n'auraient pas fait si ne l'avait pas fait lui, Moligny. Et qui connaissent Moligny et qui s'en inspirent, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, quoi. Ils ont fait cet abîme entre l'ancienne représentation du corps et le corps.